Radio Okapi. Grande interview.
Il est président de la Dynamique Congo Unie, un parti politique de l'opposition, et il a opté pour le boycott des élections du 23 décembre 2018. Vidi Echimanga Chimpanda est l'invité de Grande Interview. Vidi Echimanga Chimpanda, bonjour.
Bonjour.
Depuis le 8 août dernier, le président Kabila a présenté un dauphin. Visiblement, cela a pris de court beaucoup d'opposants qui n'avaient pour programme qu'une transition sans Kabila.
Je pense que c'est vrai que ça a pris de court pas mal de personnes, mais j'ai fait une publication le 27 juillet, donc je pense presque deux semaines avant cette présentation du dauphin. Dans ma publication, j'expliquais justement que le président Joseph Kabila n'avait pas d'autre choix que de présenter une autre personne, à sa place du moins un dauphin. Et j'avais d'ailleurs même cité le nom de M. Chadari en deuxième proposition. Le premier était Bahati, le deuxième Chadari, et je pensais même le troisième Tshibala pour faire un pied de nez à l'opposition. Donc personnellement, ça ne m'a pas trop, comment dirais-je, perturbé ou surpris. Je m'attendais à une pirouette de ce genre-là. Comme je le dis souvent, il serait stupide de penser que l'adversaire, parce que nous sommes des adversaires, je ne pense pas que nous soyons des ennemis, que l'adversaire donc de la majorité présidentielle soit naïf et ne prépare pas ses coups bien à l'avance.
Cette publication à laquelle vous faites allusion, vous l'avez intitulée « Chadari, le piège serait ferme sur l'opposition ». Explicitez un peu votre idée.
Absolument. Justement, comme vous l'avez dit dans votre première question, c'est que ça a surpris énormément de monde. Beaucoup avaient, aussi dans l'opposition, certains de nos collègues avaient misé toutes leurs réflexions sur justement une représentation du candidat Joseph Kabila, avec un forcing, on dira, sur la constitution, sur le nombre de mandats, etc., etc. Ça a surpris plus d'un. Et c'est pour ça que je dis que le piège s'est refermé, parce que en agissant de la sorte et en ne s'étant pas préparé comme il se devait, ceux-là qui n'avaient pas pris les dispositions quant à une telle pirouette de la majorité présidentielle, eh bien, se sont retrouvés un petit peu le bec dans l'eau et enfermés dans une forme de piège parce que les autres solutions devenaient un petit peu obsolètes.
Et vous proposez certains scénarios, il y en a deux. Le premier, la Cour donne raison à l'opposition et annule le résultat des élections. Le deuxième, la formule Poutine-Medvedev. À quoi tout ça rime ?
Mais comme je le disais, imaginons que les élections aient réellement lieu en décembre 2018, ce dont jusqu'à aujourd'hui je doute un petit peu et pour de multiples raisons, je pense qu'on pourra y revenir. Eh bien, imaginons que les élections aient réellement lieu et que, dans l'absolu, vous savez, dans le genre de pays comme celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, celui qui prépare les élections, en général, c'est celui qui le gagne. Et aujourd'hui, c'est la majorité présidentielle qui est au pouvoir aujourd'hui, qui est en train d'organiser ces élections. Je pense que personne n'est naïf au point d'imaginer que la CENI, à l'heure actuelle, a réellement toute son indépendance. Donc, de ce fait, nous sommes quasiment certains, ou du moins nous pouvons envisager très facilement que l'organisation de ces élections aboutira au plébiscite, avec peut-être très peu de pourcentage, d'un candidat tel que Chadari, qui serait le candidat de la majorité au pouvoir et qui pourrait gagner avec, comme je l'ai dit, un pourcentage très faible, 17%, 16%. Si les autres ont des 8, 9, 10, 11%, il est vainqueur puisqu'il n'y a qu'un seul tour. Dans ce cas-là, il y a deux options. Bien entendu, il est évident que l'opposition ne va pas se laisser faire. Et aujourd'hui, nous connaissons, disons, le sentiment d'une population qui est très hostile à un pouvoir en place qui, finalement, a laissé le pays dans une situation exsangue. Eh bien, l'opposition sautera sur l'occasion pour aller se plaindre où, bien entendu, à la Cour qui, aujourd'hui, est encore une fois minée par les membres du pouvoir. Et deux options pourront se donner à cette Cour, c'est soit d'accepter et de dire que non, les élections se sont passées et se sont déroulées de la meilleure manière qu'il soit, et donc il faut accepter et entériner la victoire du candidat qui aura vu son nom se faire plébisciter. Et là donc nous continuons avec le même système, Encore une fois, je reviens sur des publications que j'ai faites et le débat que j'ai toujours ouvert sur le combat que nous avions. Notre combat n'est pas un combat contre une personne. Le président Joseph Kabila, aujourd'hui, n'est pas l'ennemi, n'est pas l'adversaire unique. C'est un système qui n'a pas fonctionné. C'est un système qui nous a menés dans la situation sociale, politique et économique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et quand je parle d'alternance, eh bien, c'est une alternance de système et non pas une alternance de personne. À quoi sert-il de remplacer un joueur d'une équipe par un autre joueur de la même équipe si réellement nous voulions changer le système de jeu, etc., etc. Donc dans cette première option, la Cour donnerait raison au résultat de la CENI et nous nous retrouverions avec un Joseph Kabila bis en la personne de M. Chadari, puisque c'est évidemment toute la continuité du système Kabila qui va se mettre en place. Deuxième option serait que la Cour constitutionnelle donne raison aux opposants. Et dans ce cas-là, nous nous retrouvons encore une fois dans une impasse. Imaginons qu'elle annule définitivement le résultat. Peut-être elle va commencer par un recomptage et ensuite une annulation du scrutin pour différents vices. On trouvera des excuses telles que par exemple cette machine qui aura été défectueuse ou bien que le timing donné aux citoyens congolais n'aura pas été à la hauteur des attentes. C'est-à-dire, je pense que le sénateur Bemba en a fait une démonstration. Lorsque on utilise cette machine pendant une journée, je crois que c'est 220 électeurs qui pourront exercer leurs droits sur 600 qui devraient se présenter dans une journée. Donc il y a près de deux tiers des électeurs qui n'auront pas l'occasion de présenter, du moins de faire émettre leur voix. Donc dans ce cas-là, la Cour constitutionnelle pourrait tout simplement annuler ces élections. Mais dans le cas où on les annule, il faut les réorganiser. Et imaginons que nous les réorganisions, il faut relever le budget à nouveau. Un budget qui s'élève à plus de 1 milliard de dollars, ce qui demande à l'État plusieurs exercices budgétaires, en l'occurrence minimum 3 ou 4, ce qui fait un mandat supplémentaire, parce que pendant tout ce temps-là, la personne qui restera au pouvoir sera encore M. Joseph Kabila.
Entre-temps, il y a une forte mobilisation au niveau des ténors de l'opposition qui se débattent pour une candidature unique, mais dans l'une de vos publications également, vous dites que vous n'y croyez pas, compte tenu des égos des uns et des autres, et donc, comme vous l'avez intitulé, l'opposition serait en train de faire le lit de Joseph Kabila.
Voilà, exactement. Ce qui m'attriste fortement, c'est justement dans le chef de la plupart de nos leaders d'opposition, c'est justement ce que j'appelle les égos surdimensionnés des uns et des autres, où il est très difficile pour les uns et les autres de taire un petit peu leurs prétentions individuelles au profit d'un intérêt général. J'ai vu les efforts abattus par des personnalités comme Félix Tshisekedi, j'ai vu Martin Fayoulou, j'ai vu Vital Kamerhe aussi s'y exercer. Dernièrement, Eve Bazaïba est rentrée un petit peu dans la danse à travers sa représentation de M. Jean-Pierre Bemba, où tout le monde, bien entendu, parle d'une possibilité d'une candidature unique. Je pense que ce serait la solution. Je pense très honnêtement, et je sais que la population congolaise attend que les opposants, en règle générale, se mettent d'accord sur un candidat unique qu'ils pourraient présenter à leur population. Même si, fondamentalement, je pense que des élections devraient laisser liberté à tout un chacun de pouvoir se présenter, et ensuite laisser à la population le choix de choisir. Mais le cas qui nous concerne aujourd'hui dans la configuration politique de la RDC et dans la manière dont cette élection a été organisée par un pouvoir en place qui tient à s'accrocher encore une fois mordicus à ce pouvoir, il est nécessaire que nous puissions sortir une candidature unique. Encore une fois, je reviens là-dessus, il faut absolument que nos leaders, du moins les grands leaders qui aujourd'hui représentent les plus grandes aspirations de cette population, réussissent à sortir une solution gagnante avec un candidat unique.
Pour y arriver, quels sont les préalables selon vous ?
Eh bien, d'abord, il faudra beaucoup d'humilité. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je pense que si je ne me trompe pas, il faudra que je revérifie. Mais je pense que c'est le 19 septembre que la CENI va clôturer tout recours et finaliser les listes électorales. Donc, il ne reste que d'aujourd'hui au 19 septembre pour que cette décision et que cet accord soit pris entre les différents leaders d'opposition. Pourquoi je dis jusqu'au 19 septembre ? Parce que si nous dépassons cette date, les noms des personnes et les photos des personnes resteront sur les fiches électorales. Ce qui fait que même si un accord est trouvé après le 19 septembre entre les différents leaders, il sera très facile pour la CENI de présenter des votes d'électeurs pour des candidats qui se seront dit s'être retirés. Or, si leur photo est sur la liste électorale, eh bien, il y aura des votes qui vont être faits vers ces personnes parce que pendant tout le temps que nous avons, je dirais pas perdu, mais consacré à la lutte contre un système, à la lutte pour obtenir des élections crédibles, libres et démocratiques, eh bien, pendant ce temps, je pense que beaucoup ont oublié d'éduquer notre population à son rôle lors du jeu électoral, à son rôle et à la manière dont elle va pouvoir, faire son choix. Ce qui fait que, ne parlons peut-être pas tout simplement des grandes villes, mais aussi dans l'arrière-pays, qui représente quand même 80% de la population congolaise, eh bien, dans cet arrière-pays, beaucoup de notre population va se baser tout simplement sur des photos, sur des noms, peut-être en ne sachant pas quels sont les jeux politiques qui se sont joués un petit peu en amont. En l'occurrence, comme je le dis et je le répète, si la décision d'une candidature unique tombe après le 19 septembre, eh bien les photos des candidats qui se sont retirés seront encore sur les listes et elles vont recevoir des voix de l'arrière-pays, et cela va tronquer le résultat. Donc cette décision, elle est criante, mais elle doit se faire avant le 19 septembre, celle de la candidature unique.
Radio Okapi. Grande interview.
Vidie Chimanga Chipanda, président de Dynamique Congo Unie, un parti politique de l'opposition. Certains opposants ont évoqué l'idée des primaires au sein de l'opposition. Est-ce que ça pourrait être envisageable dans le temps qui reste?
Écoutez, il faut trouver les solutions. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je pense que le jeu en vaut la chandelle. Je crois que c'est l'avenir de tout un pays, de toute une population. C'est le futur et l'avenir de nos enfants que nous sommes en train de jouer aujourd'hui. Ce n'est pas une lutte et une quête pour des postes ou des positionnements. C'est réellement un vrai tournant dans l'histoire de notre pays. Je pense que si, par la grâce de Dieu, nous arrivons à cette alternance démocratique en République démocratique du Congo, eh bien, ça fera date. Ça fera date pas simplement pour la RDC, peut-être pour toute l'Afrique et peut-être pour le monde aussi, parce que ça montre un signe vers la démocratisation des pays dits sous régime dictatoriaux. Donc il est important, il est vraiment important, peut-être par des primaires ou peut-être aussi par des ententes des uns et des autres, eh bien que cette décision soit prise dans les délais les plus rapides.
Ça fait plus de 20 ans que vous militez au sein de l'opposition. Vous avez été à Genval, cofondateur du RASOP. Il y a la question de Moïse Katumbi qui n'a pas pu déposer sa candidature. Quelle solution serait-elle envisageable dans son cas?
Écoutez, c'est un cas tout à fait particulier, je dirais, mais ce n'est pas le seul cas qui nous concerne et qui m'inquiète. Je pense qu'il y a plusieurs autres candidats qui aujourd'hui se voient démunis de leur possibilité de se présenter et de concourir à ce scrutin. Je penserai à des personnalités comme Franck Diongo, Diomi et d'autres qui sont aujourd'hui sous les verrous pour des raisons multiples, peut-être des raisons discutables. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette situation découle du fait que nous n'avons jamais pu réussir à faire mettre en application l'accord de la CENCO que nous avions signé en décembre 2016. En effet, jusqu'à ce jour, le rassemblement est le seul que je connaisse, c'est-à-dire le rassemblement de l'opposition qui a son siège à Limété, qui est présidé par le président Félix Tshisekedi, dont le président du Conseil des Sages est M. Lumbi, jusqu'à ce jour, n'a obtenu aucun des principes de l'accord signé à la CENCO. En effet, même si aujourd'hui nous n'avons plus aucun intérêt pour certains de ces points particuliers. Je citerai par exemple le fait de la désignation d'un Premier ministre. Aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité, nous n'en avons plus que faire. Mais lorsque l'on parle par exemple de la décrispation du climat social et politique, avec les allègements des poursuites contre les personnes qui aujourd'hui sont presque considérées comme des exilés à l'extérieur du pays, ou bien ceux qui sont en prison, comme je l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, le point qui a attrait à la CENI, où nous étions censés avoir intégré un certain nombre de nos délégués afin de pouvoir participer réellement et garantir une certaine transparence de l'organisation de ces élections. Le fichier électoral qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas pu être réellement assaini parce que justement il n'y a pas nos délégués valablement mandatés qui aujourd'hui pourraient prendre la défense d'une cause noble telle que celle de garantir que ce fichier électoral représente réellement une image de la représentation de la population congolaise. Bref, il y a tous ces préalables que nous avions acquis à la CENCO qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été mis en application. qualification. Et le cas de M. Katumbi fait partie de ces préalables qui, malheureusement, aujourd'hui, nous le déplorons, ne sont pas respectés. Et donc, qui laisse encore entrevoir un entachement du résultat de ce scrutin.
Nous sommes à moins de 5 mois de l'organisation des élections. Vidiye Chimanga Chipanda, président de la dynamique Congo Uni, croit-il en l'organisation de ces élections? Faudrait-il les boycotter ou faudrait-il s'y préparer sérieusement?
Mais écoutez, la Dynamique Congo Uni, mon parti et moi-même, ainsi que la plateforme électorale Dynamique Congo Uni et Alliés, avons pris la décision, la mort dans l'âme, de ne pas participer à ces élections. Parce que nous considérons que ces élections sont tronquées. Jusqu'à ce jour, étant donné que les préalables et les accords que nous avions signés à la CENCO n'ont pas été mis en application et que nous avons de grandes craintes que ce scrutin ne soit pas la juste transcription de la volonté du peuple congolais, eh bien, nous nous sommes dit que nous devions peut-être, pas peut-être, mais nous devions prendre nos responsabilités et aller jusqu'au bout de nos convictions. Et quelles sont-elles nos convictions ? Je vais donner un petit exemple que j'ai coutume à présenter. Vous savez que j'ai participé pendant quelques temps au monde footballistique en République démocratique du Congo, donc c'est un petit peu une déformation de mes hobbies et de mes amitiés avec le sport. Imaginez deux équipes, on va appeler Vita majorité présidentielle et Imana opposition. Imaginez que le choix des règles soit imposé par Vita. Imaginez que le choix de l'arbitre soit imposé par Vita. Que l'instance de recours soit imposée par Vita. Que dans votre propre équipe, Vita décide de vous enlever vos attaquants de pointe, vos défenseurs prioritaires, ainsi que peut-être même votre gardien fétiche. Imaginez que Vita décide même que dans votre équipe, elle mette des joueurs qui ne vous appartiennent pas, mais qui appartiennent à son équipe, pour tromper un petit peu la vigilance. Si vous commencez le match, lorsque vous aurez perdu ce match-là, vers qui allez-vous vous retourner pour vous plaindre ? Vous allez vous retourner vers les instances qui sont détenues encore une fois par cette même équipe Vita majorité présidentielle. Je le dis maintenant, excusez-moi peut-être, mais je vais le dire en lingala, je vais presque dire Nana Tindakio. Vous allez commencer quelque chose que vous êtes certain qui est complètement biaisé. Je pense qu'il faut demander à ce que, avant que vous puissiez commencer le match, un certain nombre de préalables puissent être mis sur la table et puissent être assainis. C'est pourquoi aujourd'hui, je pense qu'il n'est peut-être même pas encore trop tard. Je ne dis pas qu'on va réouvrir les bureaux d'inscription ou quoi que ce soit, loin de là. Je dis encore une fois que la priorité n'est pas aujourd'hui de se repositionner, de trouver des postes, de concourir à quoi que ce soit. Il y a parmi nous dans l'opposition des groupes politiques qui se sont inscrits. Et je dis à juste titre, dans ce processus électoral, eh bien nous allons les soutenir. Nous allons les soutenir pour aller jusqu'au bout. Mais en même temps, nous allons nous battre et leur demander à tous les leaders d'opposition qui vont participer à ces élections. Aujourd'hui, ils ont fait montre de bonne volonté en acceptant d'aller inscrire leur liste à ce scrutin, en acceptant de participer tout en sachant que tout est tronqué et biaisé depuis le début, tout en sachant qu'ils n'ont pas obtenu tous les préalables nécessaires pour garantir la sécurité, la transparence et la crédibilité de ces élections d'ici décembre. Mais ils ont fait preuve de bonne foi et sont prêts à présenter leur projet. Félix Tshisekedi l'a fait dernièrement, je pense que Jean-Pierre Bemba l'a fait aussi, etc., etc. Donc ils sont prêts, à aller aux élections. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de faire front commun. De la même manière qu'ils feront front commun peut-être pour avoir une candidature unique. Qu'ils fassent front commun avec ceux qui sont à l'extérieur aussi, qui aujourd'hui boycottent, pour dire tout simplement, eh bien, tant que vous n'aurez pas assaini et répondu à un certain nombre de préalables qui vont garantir le résultat de ce scrutin, eh bien, nous allons interrompre notre participation, ou du moins, nous allons demander à ce que, toutes les négociations qui avaient été au préalable entendues, entre autres celles de la CENCO, je pense, qui représentent les fondamentaux de la crédibilité de ces élections, puissent être mis en application. Et maintenant, nous attendrons de la bonne foi du pouvoir en place, de la majorité présidentielle, mais aussi de la CENI, de pouvoir donner des indices et des signes. Je ne dis pas que nous allons tout gagner, je dis tout simplement qu'ils pourront peut-être alléger et assouplir un certain nombre de préalables.
Vous, comme d'ailleurs la plupart des partis de l'opposition, vous réclamiez les élections à très haute voix. Maintenant que les élections sont là, vous décidez de les boycotter. Est-ce que vous ne voulez pas la chose et son contraire?
Écoutez, vous savez, on ne peut pas tout avoir à n'importe quel prix. Lorsque nous exigeons quelque chose, lorsque nous exigeons des élections, et nous les exigeons encore jusqu'aujourd'hui, nous nous inscrivons d'ailleurs dans la volonté que les élections aient lieu le 23 décembre, du moins en décembre 2018. Nous ne sommes pas de ceux qui disent aujourd'hui les élections ne doivent pas avoir lieu en décembre 2018. Elles doivent avoir lieu. Nous n'y participerons pas parce que aujourd'hui nous considérons que les préalables ne sont pas réunis pour que la crédibilité de ces élections soit de mise. Mais pour ceux qui y participent maintenant, nous voulons que cette crédibilité y arrive. Et nous allons continuer à nous battre pour essayer d'obtenir ce. Donc nous voulons ces élections, mais nous les voulons sereines. Et pour prouver notre bonne foi, justement, nous n'y participons pas, tout simplement parce que nous voulons continuer à mettre la pression pour que ceux qui vont y participer puissent bénéficier des meilleures conditions pour que le résultat de ces élections ne soit pas un résultat décrié. Donc quelque part, c'est une espèce de sacrifice que nous faisons, mais c'est un sacrifice pour la nation. Nous acceptons de le faire. Il y en a qui ont sacrifié leur vie. Eh bien, nous sacrifions nos ambitions. Parce que nous avons les ambitions de pouvoir concourir, de pouvoir devenir des députés, de pouvoir représenter nos populations, représenter nos membres, représenter les membres de nos partis. C'est notre vœu le plus cher. Et c'est la mort dans l'âme quand je vous dis que nous ne participons pas à ces élections. Mais je pense que c'est un sacrifice qui est nécessaire, qui peut-être fera entendre les choses et peut-être qui montrera un exemple de faire les choses autrement, de faire la politique autrement, c'est-à-dire avec d'abord des convictions et non pas simplement des courses à des positionnements.
Vidie Chimanga Chipanda, président de Dynamique Congo Unie, un parti politique de l'opposition. Parmi les préalables, l'opposition cite la question de la machine à voter. Oui. Pensez-vous que dans le temps qui reste, un consensus pourrait être dégagé autour de cette question ?
Encore une fois, je pense que la machine à voter est un piège. Je pense que c'est un piège parce que qu'on garde jusqu'en dernier recours. Dans l'hypothèse où la majorité présidentielle ne serait pas intéressée aujourd'hui d'organiser réellement les élections en décembre, parce que c'est ce que je pense, jusqu'aujourd'hui je doute fort que ces élections aient réellement lieu, je pense que la machine à voter est une dernière carte à jouer pour eux. Enfin, l'une des dernières cartes à jouer pour eux. C'est-à-dire, je m'explique, aujourd'hui, puisqu'il a été démontré par A plus B, par plusieurs personnes, tant de la communauté internationale que par les nationaux, que cette machine à voter ne peut pas répondre à des impératifs de temps, à des impératifs de crédibilité, même à partir du pays, c'est-à-dire la Corée, où on a émis ces machines, il y a des doutes du gouvernement coréen quant à la crédibilité de ces machines. Donc, on peut tout à fait imaginer qu'en dernière minute, peut-être à 2-3 semaines de la tenue du scrutin, eh bien que la CENI, la majorité au pouvoir, décide de dire « Oui, finalement, vous avez raison. Ces machines ne peuvent pas être utilisées. Alors, nous allons réorganiser le scrutin d'une autre manière. » Eh bien, ça aura été fait avec le concours de l'opposition, puisque c'est l'opposition qui l'aura demandé. Et il sera facile de jeter la balle et dire « Non, mais c'est l'opposition qui ne voulait pas. » Mais bien entendu, c'est pour ça que je dis souvent « Le piège est en train de se refermer. » Parce que c'est une espèce de jeu d'échecs. Lorsque la majorité présidentielle vous donne un pion, vous le prenez, mais en tout cas, elle vous rentre dans 3 pions jusque derrière et avoir une dame à l'arrière. C'est pour ça que je dis encore une fois, cette machine à voter aujourd'hui, elle est décriée. Mais par contre, je dirais qu'en 2006, il y a eu des élections. Nous estimons que ces élections n'ont pas été crédibles dans leurs résultats, mais il n'y avait pas de machine à voter. En 2011, mêmement, le résultat, pour nous, nous savions que c'était le président Étienne Tshisekedi qui avait gagné, mais on a présenté le président Joseph Kabila comme le vainqueur. Donc, il n'y avait pas de machine à voter non plus. Donc, la volonté de tricher, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas machine à voter, elle sera toujours présente. Donc, pour moi, la machine à voter n'est qu'une échappatoire, une carte que la CENI et la majorité au pouvoir aujourd'hui gardent sous son épaule pour, à un moment donné, venir nous la sortir et justifier d'une prolongation ou d'un autre délai quant à l'organisation de ces élections. Donc cette machine, je pense le sénateur Bemba l'a présentée, mais d'autres aussi l'ont fait. Je pense qu'aujourd'hui l'UDPS et le président Tshisekedi ne sont pas fondamentalement contre l'utilisation de cette machine, mais par contre, il faudrait circonscrire la manière d'utiliser cette machine, peut-être ne pas le faire en un jour, mais en deux ou trois jours, c'est-à-dire, je parle du scrutin, peut-être aussi modifier un certain nombre d'aspects techniques de cette machine, mais cela demande et sous-entend que nos délégués puissent participer réellement à l'organisation de ces élections.
Portrait.
Vidier Chimanga, nous allons à présent découvrir votre parcours dans ce portrait que nous dresse Tina Salama.
Vidier Chimanga Chimamba est un homme politique et homme d'affaires, un Congolais né en 1976 dans la commune de Lemba, ici à Kinshasa. Son père, Chimanga Belbel, était magistrat puis avocat au barreau de Kinshasa. Sa mère, Marianne Vermilgen, secrétaire à la SNEL. Il est en couple depuis 1993 avec Kokalinda et père des trois enfants. Vidier Chimanga fait donc ses études primaires et secondaires au lycée Prince de Liège de Kinshasa jusqu'en 1993. De 93 à 98, il se rend en Belgique pour des études supérieures en droit qu'il ne finit malheureusement pas et choisit de revenir au pays où il intègre une rébellion contre Laurent-Désiré Kabila aux côtés de Jean-Pierre Bemba. Il finit par quitter ce dernier et se range du côté des Ougandais. En 1999, Vidier Chimanga crée sa première société, LVR Esperel, d'import-export de vivres secs, des produits vendus en Afrique australe. En 2001, sa société fait faillite et il devient alors en 2002 cofondateur d'un groupe de réflexion sur les enjeux du pays appelé OB, avec, entre autres, Didier Moumengui, Henri Mouvasakani, Ouvine Moulika et tant d'autres. L'année suivante, en 2003 donc, avec certains compères de l'OB, ils s'inscrivent dans l'opposition et créent la Ligue du Peuple. En 2004, sa société LVR Esperel renaît ses cendres et devient un bureau d'achat international. En 2005, il lutte entre autres contre la prolongation de la transition. Il devient membre fondateur du collectif Non à la Constitution. Et en 2006 toujours, il est candidat malheureux aux élections législatives dans la circonscription de la Lukunga. Et la même année, il soutient à nouveau Jean-Pierre Bemba pour le second tour aux élections présidentielles. En décembre 2006, Vidier Chimanga est arrêté, considéré comme prisonnier politique à Kinmazière. En juillet 2007, il crée la Congo Bandundu Mining Esperel, un comptoir d'achat de métaux précieux et exploitation de diamants dans le Kwango, qui aura plus tard une vocation nationale après fusion et acquisition des concessions minières. En 2012, c'est la création de Dynamique Congo Uni, un parti politique d'opposition. Et en 2016, il fait partie du RASOP, le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, et de la composante signatrice de l'accord de la CINCO, coalition des alliés tshisekedistes, CAT, et est envoyé à la CINCO comme expert pour le compte du RASOP. Le 30 juin 2015, il est à nouveau arrêté à la police de Kalamu lors de la marche « Tout s'arrête ». Rappelons aussi que Vidier Chimanga est cofondateur et vice-président du Club des motards de Kinshasa, Bikers Club, en 2012. Et de 2013 à 2014, il assure la présidence du DSMP, le Daring Club Motema Pembe.
Merci Tina Salama. Pour terminer, vous avez tout à l'heure fait allusion à l'accord de la Saint-Sylvestre. Cet accord est-il toujours valable? Faudrait-il continuer à en parler ou ça fait partie du passé?
Ben écoutez, je pense que cet accord est à l'instar de la constitution congolaise aujourd'hui, un des fondamentaux sur lesquels nous essayons de nous baser pour justifier, tant que faire se peut, la crédibilité de la situation politique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les différents ministres qui se sont succédés et premiers ministres succédés après la signature de cet accord ne sont pas finalement issus de la constitution ou du moins du mode de désignation constitutionnellement acquis. Donc cet accord fait partie du paysage et fait partie des fondamentaux, même si jusqu'à ce jour j'estime et nous estimons que il n'a pas été mis en application, qu'il a juste été utilisé, trituré, manipulé pour justifier d'une espèce de forme de prolongation que nous avons depuis 2016 jusqu'à ce jour. Cela étant, je reste convaincu que si certains préalables, plus tous bien entendu, parce que comme je l'ai expliqué, nous n'avons plus besoin de ces histoires de premier ministre, etc., etc., mais certains des préalables, comme la décrispation du paysage politique et sécuritaire, comme la présence de nos délégués au niveau de la CENI, etc., etc., et notre participation à l'organisation des élections, eh bien, je pense que ce sont des préalables fondamentaux pour que nous puissions garantir la sérénité des élections de décembre 2018.
Vidi Chimanga Chimpanda, président de Dynamique Congo Unie, parti de l'opposition, merci d'avoir reçu grande interview chez vous.
Écoutez, c'est moi qui vous remercie et j'espère qu'une prochaine fois, nous pourrons continuer.
Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. Supervision Tina Salama, coordination Michel Kifindangoy, présentation Alain Rong Mouchinge. Merci de votre attention et à la prochaine pour un nouveau numéro.